les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voici deux nouvelles signées de l'humoriste américain James Durber. Deux nouvelles mettant chacune en scène un Américain moyen. Moyen et plein d'imagination en ce qui concerne le premier. Moyen est atteint d'une cicatrice au visage en forme de chaussure. Cela change tout. Cela peut tout changer. Pour Patrice Galbaud, Marcel Bozuffi disait ces deux nouvelles pour l'émission Bonne Nouvelle Grand Comédien, diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 septembre 1973.
J'avais très envie de dire cette nouvelle de Thurber parce que c'est la vie d'un petit homme malingre, distrait, qui a une double vie et qui vit constamment dans un rêve et qui se crée des personnages fabuleux qu'il rêve d'être. Ça a fait un très beau film et ça a été merveilleusement joué par Danny Kaye. C'est La vie secrète de Walter Mitty.
Nous passerons. La voix du capitaine était coupante comme un morceau de glace qui se brise. Il était en grande tenue, la casquette blanche, surchargée de galons, inclinée avec désinvolture sur son œil gris et froid.
Mais nous ne pourrons pas, monsieur. Nous allons vers la tempête.
Je ne vous ai rien demandé, lieutenant Berg, dit le capitaine sévèrement. Braquez les projecteurs. Poussez les moteurs à 8500. Nous passerons.
Le bruit des machines augmenta.
Poukouta, 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 poukouta.
Le commandant fixait le givre qui se formait sur la vitre du poste de pilotage. Il actionna une manivelle qui commandait une rangée de boutons compliqués.
Auxiliaire, tournez l'huit, cria-t-il. Auxiliaire, tournez l'huit, répéta le lieutenant Berg.
Le trois à fond, cria le capitaine.
Le trois à fond, répéta le lieutenant.
Les hommes d'équipage, occupés à diverses tâches, se regardèrent en souriant. Le vieux nous fera passer, le vieux n'a peur de rien.
Pas si vite.
Mais enfin, tu vas trop vite, dit Madame Mitty.
Hein ? Hein ?
Dit Walter Mitty. Il regarda hébété sa femme assise à côté de lui et la dévisagea comme s'il s'agissait d'une étrangère.
Mais enfin, tu étais presque à 55.
Tu sais bien que je n'aime pas rouler à plus de 40, et tu étais à 55. Walter Mitty continua à rouler en silence vers Waterbury. Les moteurs du SN-202 grondaient à travers la tempête la plus forte qu'on ait jamais vue dans la marine depuis 20 ans.
Ah, te voilà encore énervé, dit Madame Mitty.
C'est ton jour. J'aimerais réellement que le docteur Renshaw t'examine.
Walter Mitty stoppa devant le coiffeur de sa femme.
« Et n'oublie pas d'aller chercher ces caoutchoucs pendant qu'on me coiffe, hein ?»«
Je n'ai pas besoin de caoutchouc, » dit Mitty d'un air sombre. Sa femme rangea sa glace dans son sac.
« Assez discuté de ça. Tu n'es plus un jeune homme, » dit-elle. « Pourquoi ne mets-tu pas tes gants ?»
Walter Mitty les sortit de sa poche et les mit. Mais dès qu'elle fut entrée dans la boutique, il démarra et au premier feu rouge les retira.
C'est le banquier millionnaire Wellington Macmillan, dit la jolie infirmière.
Ah oui, dit Walter Mitty en retirant ses gants. Et qu'il soigne? Le docteur Renshaw et le docteur Benbow, mais il y a deux spécialistes qui viennent d'arriver. Le docteur Remington de New York et le professeur Pritchard Mitford de Londres. Il est venu en avion.
Une porte s'ouvrit dans un long couloir glacé et le docteur Renshaw apparut, l'air hagard.
Salut Mitty, dit-il.
Nous avons des ennuis graves avec Macmillan, le banquier millionnaire. C'est un ami intime de Roosevelt. Obstruction du canal ductile. J'aimerais que vous l'examiniez.
Avec plaisir, Dimitri.
Dans la salle d'opération, les présentations se font à voix basse. Docteur Remington, docteur Mitty, monsieur le professeur Pritchard Mitford, docteur Mitty.
À ce moment, une énorme machine reliée à la table d'opération par des tubes et des fils commence à faire un bruit étrange.
La machine à anesthésier nous lâche, crie un interne, et il n'y a personne dans tout l'Est qui sache la régler.
Du calme, jeune homme, dit Mitty d'une voix froide et basse.
Il bondit vers la machine, qui fait maintenant... Il manipule délicatement une rangée de boutons brillants.
« Passez-moi un stylo, aboie-t-il. »
On lui entend un. Il enlève alors un piston défectueux et enfonce le stylo à la place.
« Ça tiendra bien 10 minutes. Continuez l'opération. »
Une infirmière traverse la salle en courant et murmure quelque chose à l'oreille de Renshaw. Mitty le voit pâlir.
Le coréopsis s'est déclaré, dit nerveusement Renshaw. « Vous vous en occupez, Mitty. »
Mitty le regarde. Regarde la silhouette affaissée de Benbow en train de boire et les visages graves des deux spécialistes.
Comme vous voulez, Dimitri.
On lui passe une blouse blanche, il met un masque et enfile les gants d'un caoutchouc très fin.
En arrière, bon Dieu! Attention à la buick!
Walter Mitty freina à mort.
Bah, pas par là, mon vieux, dit le préposé au parking, en le regardant attentivement.
Pardon. Pardon, dit Mitty. Et il commença à reculer pour sortir de l'allée. C'était l'allée marquée sortie, entrée interdite.
Non! « Non, laissez-la ici, je l'arrangerai, » dit le préposé.
Mitty descendit de la voiture.
« Hé, faut me laisser les clés. »«
Oh, pardon, » dit Mitty en les lui tendant.
Le gardien sauta dans la voiture, recula et l'arrangea avec une insolente désinvolture.
« Quel type ?» pensa Mitty en remontant Main Street. « Des types comme lui croient tout savoir. »
Mitty, un jour... avait voulu retirer les chaînes de ses pneus à la sortie de New Milford, et elles s'étaient coincées autour des essieux. Il avait fallu que quelqu'un vienne dans une vieille guimbarde pour les enlever, un jeune garagiste grimaçant. Depuis cette aventure, Madame Mitty le faisait toujours aller au garage pour retirer les chaînes.
« La prochaine fois, pensa-t-il, je porterai un bras en écharpe. Comme ça, ils ne se moqueront plus de moi. Oui, 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 je mettrai un bras en écharpe, et ils verront bien qu'il m'est impossible d'enlever les chaînes tout seul. »
Il donna un coup de pied dans une motte de neige un peu sale.
« Caoutchouc, pensa-t-il. »
Il se mit en quête d'un magasin de chaussures.
En sortant de la boutique, la boîte de caoutchouc sous le bras, Walter Mitty cherchait quelle était l'autre chose que sa femme lui avait demandé d'acheter. Et pourtant, elle le lui avait dit 2 fois.
Un marchand de journaux passant en criant quelque chose à propos du procès de Waterbury.
Peut-être que ceci vous rafraîchira la mémoire.
Le district attorney tendit un lourd revolver vers le banc des accusés.
Vous avez déjà vu cet objet?
Walter Mitty prit le revolver et l'examina d'un œil connaisseur.
C'est mon Webley Wicker 5080, dit-il calmement.
Un murmure parcourut la salle d'audience.
Le juge frappa sur la table pour rétablir le silence.
« Il paraît que vous êtes un tireur d'élite, » lui demanda insidieusement le district attorney.
« Objection !» cria l'avocat de Mitty. « Nous avons prouvé qu'il avait le bras droit en écharpe le soir du 14 juillet. »
Walter Mitty leva la main et les avocats qui se querellaient firent silence.
« J'aurais pu tuer Gregor Fitzgerald « avec n'importe quel revolver à 100 mètres de la main gauche, » dit-il d'une voix blanche.
Un tumulte infernal se déchaîna dans la salle. Le cri d'une femme couvrit le vacarme et soudain, une jolie brune se jeta dans les bras de Mitty. Le district attorney la frappa sauvagement. Sans se lever de sa chaise, Mitty lui lança un terrible direct à la mâchoire.
« Misérable goujat !»«
Oh !»« Mais oui, des biscuits pour le chien, » pensa Mitty. Il s'arrêta et les maisons de Waterbury surgirent du tribunal brumeux et l'entourèrent à nouveau. Une femme qui passait se mit à rire. Mitty pressa le pas. Il entra dans une boulangerie, pas dans la première qu'il vit, mais dans une autre, plus petite, en haut de la rue.
« Je voudrais des biscuits pour petits chiens, » dit-il au vendeur.
Quelle marque, monsieur ?
Le plus grand tireur du monde réfléchit un instant. Ce où il y a écrit « Le délice de Médor » sur la boîte.
Il regarda sa montre. Sa femme serait prête dans un quart d'heure, à moins que le séchage soit défectueux. Cela arrivait quelquefois.
Madame Mitty n'aimait pas arriver à l'hôtel la première. Elle voulait qu'il l'attende, là, comme d'habitude. Il trouva un grand fauteuil de cuir dans le hall en face d'une fenêtre. Il posa les caoutchoucs et la boîte de biscuits par terre à côté de lui. Puis il prit un vieux numéro du Duberti et s'effondra dans le fauteuil.
L'Allemagne peut-elle conquérir le monde par les airs ? Walter Mitty regarda les photos. Avions, bombardements.
Le petit Raleigh t'est touché, monsieur, dit le sergent.
Le capitaine Mitty le regarda à travers ses cheveux ébouriffés. « Mettez-le au lit, dit-il d'une voix lasse. Mettez-le avec les autres, je volerai seul. »«
Mais vous ne pouvez pas, dit le sergent inquiet. Il faut deux hommes pour conduire cet avion et les Fritz tirent de partout. De plus, von Schrichmann a sa base entre ici et Saulieu. »«
Il faut bien que quelqu'un le détruise, ce dépôt de munitions, dit Mitty. Je passerai. »«
Une goutte de cognac ?»
Il remplit deux verres, un pour le sergent, un autre pour lui. Autour de l'abri, la guerre grondait et frappait à la porte. Tout à coup, le bois se volatilisa et des éclats volèrent à travers la pièce.
« Un peu court, » dit négligemment le capitaine Mitty.
« Oui, mais le tir se rapproche, » dit le sergent.
« On ne vit qu'une fois, sergent, » dit Mitty avec un sourire fugitif.
« Et encore !» Il se versa un autre cognac et le but d'un trait.
« Je n'ai jamais vu personne supporter le cognac comme vous, monsieur. » « Sauf votre respect, monsieur. »
Le capitaine se leva et fixa à sa ceinture son énorme Webley Wickers.
« Ça fait 40 kilomètres à travers l'enfer, monsieur. »
Mitty vida un dernier verre. « Allons, dit-il. On peut dire ça de tout. » Le grondement du canon augmenta.
« Ta-ta-ta-ta ! Pouk-ta, 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 pouk-ta !»
Mitty se dirigea vers la porte de l'abri en fredonnant. « Auprès de ma blonde... » Il se retourna vers le sergent et lui fit un signe de la main. « Adieu !»
Il sentit quelque chose qui lui touchait l'épaule. « Mais enfin, je t'ai cherché partout. Enfin, pourquoi te caches-tu dans ce fauteuil ? Comment espérais-tu que je te trouve ?»«
Tout est fini, » dit Mitty d'un air absent.
« Quoi ?»« Quoi ?» dit Madame Mitty. « As-tu acheté le machin chose, les biscuits pour les chiens ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?»
Les caoutchoucs, dit Mitty.
Tu ne pouvais pas les mettre dans le magasin ?
J'ai pensé que... Enfin, tu sais que cela m'arrive de penser quelquefois. Elle le regarda.
Oui, je prendrai ta température dès que nous serons rentrés, lui dit-elle.
Ils sortirent par la porte tambour. Le parking était à deux pas. Devant la pharmacie, elle lui dit « Attends-moi, j'ai oublié quelque chose. J'en ai pour deux minutes. »
Walter Mitty alluma une cigarette. Il commençait à pleuvoir une pluie froide, mêlée de neige fondue. Il s'appuya contre le mur de la pharmacie pour fumer sa cigarette. Il avait rentré la tête dans les épaules et joint les talons.
« Je n'ai pas besoin de votre bandeau, » dit Mitty, plein de mépris.
Il tira une dernière bouffée. Son sourire fugitif erra sur ses lèvres et il regarda le peloton d'exécution.
Droit et immobile, fier et hautain, Walter Mitty, l'invaincu, énigmatique jusqu'à la mort, fit face au peloton qui le mettait en joue.
Toujours dans les histoires irréelles et poétiques de Thurber, une autre nouvelle du même auteur, Le cas très remarquable de M. Brühl. Samuel O'Brühl était un citoyen moyen comme vous et moi. Rien ne le différenciait des autres, à part une cicatrice en forme de chaussure qui lui restait d'un accident de jeunesse. Il s'était ouvert la joue gauche en tombant sur un brancard. M. Brühl avait une bonne place comme trésorier dans une entreprise de sirop et de bonbons fondants. Une grosse femme dévote, deux filles dociles et une jolie maison à Brooklyn. Il travaillait de 9h à 17h, allait quelquefois au spectacle, jouait au golf,
assez mal, mais s'en contentait, et se couchait généralement à 11 heures. Les Brûles avaient un chien qui s'appelait Bert, un petit cercle d'amis et une vieille voiture conduite intérieure. Il menait une vie monotone, confortable et somme toute agréable. Il n'y avait aucune raison apparemment pour que Samuel Brûle ne continue pas sa vie tranquille et ne meure pas d'une quelconque maladie naturelle. En un mot, c'était le même type de citoyen moyen que Judd Gray, au dire de ceux qui ont observé ce dernier. Et, précisément, comme ce père de famille tranquille qui avait été précipité brusquement dans une tragédie incroyable, Samuel Brûle fut choisi pour une fin extravagante et imprévisible parmi des centaines d'hommes. Aussi étrange que cela paraisse, ce fut sa cicatrice en forme de chaussure qui attira sur lui une vengeance à laquelle il ne se serait jamais attendu. Samuel O'Brûle ressemblait beaucoup à George Clinigan, un gangster surnommé La Chaussure. Clinigan avait sur la joue gauche la même cicatrice en forme de chaussure que Brûle. Il y avait aussi entre eux une assez grossière ressemblance quant à la taille, la corpulence et la carnation. Un examen attentif aurait vite révélé que les yeux de Clinigan étaient fuyants, alors que ceux de Brûle étaient clairs, que le trésorier de l'entreprise de sirop et de fondant avait une bouche plus agréable et un front plus haut que ceux du gangster. Mais au premier coup d'œil, la ressemblance était frappante. Si Clinigan n'avait pas été célèbre, cette farce de la nature n'aurait jamais été découverte. Mais Clinigan était célèbre, et des dizaines de personnes remarquèrent que Brûle lui ressemblait. Ils virent la photographie de Clinigan dans les journaux le jour où celui-ci fut blessé. Ils la virent le lendemain et les jours suivants. Aussitôt, quelqu'un de la fabrique de sirop et de fondant dit à quelqu'un d'autre que Clinigan ressemblait à Brûle, qu'il lui ressemblait même beaucoup. Bientôt, tous les employés de la fabrique en parlèrent entre eux et le dirent à Brûle lui-même. Brûle commença par en rire. Mais un jour, Clinigan était à l'hôpital depuis une semaine entre la vie et la mort, un agent regarda M. Brûle sous le nez alors que Brûle rentrait tranquillement chez lui après son travail. Peu de temps après, le trésorier remarqua que de plus en plus des regards surpris et inquiets se posaient sur lui. Il y eut même un petit homme, au teint basané, qui glissa vivement sa main dans la poche de son pardessus et pâlit légèrement. Monsieur Brûle commença alors à s'inquiéter, à se poser des questions. « J'espère que ce type Clinigan ne va pas s'en tirer, » dit-il un matin, en prenant son petit déjeuner. « C'est un mauvais acteur. J'aimerais mieux le savoir mort. » Le matin qui suivit la nuit où Clinigan quitta l'hôpital secrètement par une porte dérobée et disparut dans la ville, Brûle décida de ne pas aller travailler. « Je ne me sens pas bien aujourd'hui, » dit-il à sa femme. « Veux-tu téléphoner au bureau pour dire que je suis malade ?»« Oui, tu n'as pas bonne mine en effet, » lui dit-elle. « Tu as vraiment mauvaise mine. »« Couché, Berthe, » ajouta-t-elle pour le chien qui avait sauté sur ses genoux en pleurant car il avait flairé quelque chose d'anormal. Brûle traîna toute la matinée dans la maison et lut les journaux. Il apprit que Clinigan avait disparu, mais qu'il n'avait probablement pas quitté la ville. Toutes les organisations de gangsters et les différents rackets qu'il contrôlait réclamaient sa présence, au moins jusqu'à ce qu'il ait assez d'argent pour filer ailleurs. Il avait quitté l'hôpital sans un sou. Le journal annonçait que des bandes rivales espéraient le retrouver, le traquer et lui donner une bonne leçon. « Pourquoi une bonne leçon ?» dit Madame Brûle en lisant l'article. « Oh, parlons d'autre chose, veux-tu ?» lui dit-il. C'est le petit Joe, le coursier de l'entreprise de sirop et de fondant, qui le premier découvrit que M. Brûle avait peur. Joe entra un jour dans le bureau du trésorier qui ne l'avait pas entendu arriver parce qu'il portait des chaussures de tennis. Il ouvrit la porte brusquement et voulut dire quelque chose. « Mon Dieu !» cria Brûle en bondissant de sa chaise. « Eh bien, que se passe-t-il ? » demanda Joe. Il y eut d'autres petits incidents de ce genre. Un jour, la standardiste appela Brûle dans son bureau pour lui dire qu'un monsieur voulait le voir.
un certain Monsieur Globe.
Comment est-il ? Demanda Brûle qui ne connaissait personne de ce nom.
Il est petit et très brun, dit la fille.
Un petit homme basané ? Dit Brûle.
Dites-lui que je ne suis pas là, dites-lui que je suis parti en Californie.
Le personnel finit par en conclure que le trésorier avait peur d'être pris pour la chaussure et d'être assassiné. Ils n'en parlèrent pas à Brûle parce que Holly Brechtofer, qui était un farceur infatigable, avait une idée et leur avait ordonné de se taire. La chasse à Clinigan continuait. On ne savait pas où il était. Et M. Brûle maigrissait, devenait de plus en plus nerveux. Il commença par chercher de nouveaux itinéraires pour aller à son travail. L'un d'eux l'obligeait à utiliser deux ferry lines. Il déjeunait au bureau, criait quand quelqu'un faisait tomber le moindre objet et se précipitait dans un grand magasin ou dans une banque quand un chauffeur de taxi en maraude criait après lui. Un matin, en mettant de l'ordre dans la maison, Mme Brûle trouva un revolver sous l'oreiller de son mari.
« J'ai trouvé un revolver sous ton oreiller, » lui dit-elle le soir même.
« Oui, il y a des voleurs qui rôdent par ici, » lui dit-il. « Enfin, mais tu n'as pas le droit d'avoir un revolver. » Ils discutèrent à ce sujet. Lui était irritable, elle était inquiète. Au moment d'aller se coucher, pendant que Brûle se déshabillait après avoir verrouillé toutes les portes, le téléphone sonna.
« C'est pour toi, Sam, » lui dit sa femme.
Il alla lentement vers le téléphone et dit en passant à son chien « J'aimerais bien être à ta place. » Puis il prit le récepteur. « Écoute ça, la chaussure, » dit une voix enrouée. « On sait où tu es, t'es cuit. » Et on raccrocha. Brûle poussa un cri et sa femme arriva en courant.
« Qui est-il, Sam ? Qui est-il ?»
Brûle, pâle et défait, s'était effondré dans un fauteuil. « Ils m'ont eu, » gémit-il. Ils m'ont eu. Lentement, à force de questions, Minnie Brûle réussit à apprendre que son mari avait été pris pour la chaussure et qu'il était cuit. Madame Brûle n'avait pas l'esprit vif, mais elle avait une certaine intuition et pendant qu'elle tremblait de froid dans sa chemise de nuit, penchée sur son mari bouleversé, son intuition lui dit que ce coup de téléphone était l'œuvre d'Holly Brechtofer. Elle appela immédiatement la femme d'Holly et apprit la vérité de la bouche de celle-ci. C'était bien Holly qui avait téléphoné. Le trésorier de la compagnie Masconset de sirop et de fondant fut si soulagé d'apprendre que les gangsters n'étaient pas assez trousses qu'il reconnut honnêtement le lendemain qu'Holly l'avait bien eu. Il partagea l'hilarité de ses collègues et accepta les plaisanteries dont il fut l'objet toute la journée. Après cet incident, le petit homme tranquille eut l'esprit relativement en repos pendant presque une semaine. D'ailleurs, les journaux parlaient très peu de Clinigan. Il avait complètement disparu de la une. La guerre des gangs était terminée pour le moment. Un dimanche matin, M. Brûle se mit en route pour une promenade en voiture avec sa femme et ses filles. Ils avaient à peine fait un kilomètre dans les rues de Brooklyn quand M. Brûle aperçut dans le rétroviseur une voiture bleue derrière lui. Il tourna dans la rue suivante et la voiture en fit autant. Brûle tourna de nouveau et la voiture le suivit.
« Viens, où vas-tu, chérie ?» lui demanda Madame Brûle.
Brûle ne répondit pas, il accéléra. Il conduisit à une allure folle et tournait si brutalement que les roues avant semblaient vibrer. Un agent siffla, sa plus jeune fille poussa un cri. Brûle tourna à droite et se mit à zigzaguer. Madame Brûle se fâcha, « Mais enfin, as-tu perdu la tête, Sam ?» lui cria-t-elle. Brûle regarda derrière lui, la voiture bleue n'était plus là.
« Rentrons, » dit-il. « J'en ai assez pour aujourd'hui. »
Un mois passa sans incident. Et Samuel Brûle redevenait lui-même. Le jour où vraiment il retrouvait tout son calme, Sluggy Penciotta, alias Lewis Lutwer, alias Corchet l'étrangleur, fut abattu. Sluggy était le chef de la bande qui avait juré de supprimer Clinigan. Les journaux reparlèrent aussitôt de la guerre des gangs. Ils publièrent à nouveau des photos de Clinigan. D'après la presse, la mort de Penciotta ne pouvait dire qu'une chose. Clinigan, la chaussure, était cuit. En lisant cela, M. Brûle s'effondra à nouveau. Il se cacha pendant une semaine, guettant tous les bruits,
s'évanouissant presque quand une voiture passait près de lui. Il commença même à changer d'apparence. Il parlait en ouvrant à peine la bouche, ses yeux devinrent fuyants, il ressemblait de plus en plus à Clinigan. Il devenait hargneux. Un jour, il appela sa femme « Poupée », alors qu'il ne l'avait jamais appelée autrement que « Mimi ». Il se mit à l'embrasser sauvagement, brutalement. Au bureau, il devint mesquin et autoritaire. Il employait un langage inhabituel. Un jour, que les Brûle avaient invité des amis pour jouer au bridge, le vieux Cregan et sa femme, Brûle, au cours de la soirée, apparut soudain en haut de l'escalier dans un pyjama écarlate, une cigarette au coin de la bouche, un revolver à la main. Après avoir fait quelques remarques incohérentes d'une voix forte et suffisante, il visa la pendule qui était sur la cheminée et la toucha en plein centre. Madame Brûle poussa un hurlement, Madame Cregan s'évanouit, Berthe qui était dans la cuisine se mit à aboyer violemment. « Qu'est-ce que tu as, toi ?» grogna Brûle. Puis, « Bande d'imbéciles !» Tout à fait par hasard, Madame Brûle découvrit 8 ou 10 livres sur les gangsters et leur organisation que son mari avait cachés dans un placard. Il y avait entre autres Al Capone, 10 000 ennemis publics et beaucoup d'autres. Il semblait qu'ils avaient été feuilletés très souvent car ils étaient sales et abîmés. Madame Brûle comprit qu'il était temps de faire quelque chose et elle décida d'appeler un médecin. Brûle n'était pas allé travailler depuis 2 ou 3 jours et traînait dans la chambre dans son pyjama rouge en fumant beaucoup. Le bureau téléphona plusieurs fois. Quand Madame Brûle le pressait de s'habiller pour y aller, il lui riait au nez et lui donnait des tapes sur les fesses. « C'est comme ça, la môme, » disait-il. « On va pas s'en faire, on s'en fout. » Le docteur qui vint finalement se glissa dans la chambre de Brûle et en ressortit l'air grave. « C'est une psychose, » dit-il. « C'est une psychose caractérisée. Votre mari vit dans un monde imaginaire. Il s'est fabriqué un mécanisme de défense contre quelque chose. » Il conseilla d'appeler un psychiatre. Mais, quand il fut parti, Madame Brûle décida d'emmener son mari hors de la ville pour un petit voyage. La compagnie Masconcet de sirop et de fondant fut très compréhensive. Curieusement, Brûle accepta de partir. « Oui, j'ai besoin de repos, tu as raison, » dit-il, fuyant tous ses ennuis. Il sembla normal jusqu'au moment d'aller vers la gare Grand Central. Il insista alors pour partir par la gare de la 125e rue. Madame Brûle refusa, disant que c'était ridicule, et son mari lui dit alors « Mon Dieu, quelle sotte j'ai choisi !» Et il ajoute avec amertume que ça allait bientôt chauffer et que sa poupée en serait seule responsable. « Hein, que penses-tu de ça » dit-il en la poussant sur le plancher du taxi. Ils s'arrêtèrent dans une petite auberge de montagne. L'endroit n'était pas très joli, mais la chambre très propre et la nourriture fort bonne. Il n'y avait pas de distraction à part un golf miniature et un mauvais court de tennis. Mais M. Brûle s'en moquait. Il disait qu'il faisait trop froid dehors. De toute façon, il restait à l'intérieur, lisait et fumait. Le soir, dans la salle à manger, il fit marcher le piano mécanique. Il mettait « Je ne t'ai pas tout dit », sans arrêt. Un soir, comme il allait mettre la 7e ou 8e pièce dans l'appareil, 4 hommes entrèrent dans la salle. Ils étaient silencieux et portaient des pardessus. Ils tenaient à bout de bras des boîtes qui avaient l'air de contenir des instruments de musique. Ils en sortirent vivement des armes et marchèrent sur Brûle qui resta immobile. Il se retourna juste à temps pour les voir s'aligner à sa hauteur et le viser. Il n'y avait personne dans la salle à manger. On entendit simultanément un hurlement et une série de coups de feu. Brûle s'écroula et les hommes sortirent un par un, rapidement, sans avoir prononcé une seule parole. Madame Brûle, la police et la direction de l'hôtel essayèrent de faire parler le blessé. Witznitz, le chef de la police locale, essaya par la force, mais en vain. Brûle grognait et leur disait de partir et de le laisser seul. Enfin, le commissaire O'Donnell de la police de New York arriva à l'hôpital. Il demanda à Brûle de décrire ses agresseurs. « Je ne sais pas qui a tiré, » murmura Brûle. « Et si je le savais, je ne vous le dirais certainement pas. » Il y eut un moment de silence.
Puis Brûle ajouta : sale flic. Le commissaire le regarda et s'éloigna. Ils sont tous pareils, dit-il aux autres. Ils ne parlent jamais. En entendant cela, Brûle sourit d'un sourire satisfait et ferma les yeux.
C'était Bonne Nouvelle, Grand Comédien, une émission de Patrice Galbeau. Marcel Bozzuffi disait deux nouvelles de l'écrivain américain James Thurber, La vie secrète de Walter Mitty, puis Le cas très remarquable de Monsieur Brûle. Première diffusion sur France Culture le 6 septembre 1973. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.